marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
La bénédiction de la toute-puissante Compagnie des Indes.
L'Inde sous les yeux des Européens.
Mesdames, messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter la currywurst, la saucisse au curry. Berlin, 4 septembre 1949. Herta Heuwer fait le pied de grue dans son Imbiss, sa baraque à saucisse sur la Stuttgarter Platz. Pour tuer le temps, Herta commence à expérimenter à tort et à travers. Elle mélange de la purée de tomates avec plusieurs épices et grabouille, touille et goûte. Puis, elle coupe une saucisse en petits morceaux, verse l'étrange mixture par-dessus et pour couronner le tout, la saupoudre de curry. Le résultat a vraiment l'air appétissant et, au miracle, il est mangeable.
Vous aurez noté l'importance du curry. Alors, cette idée du curry serait venue en Allemagne par les troupes britanniques d'occupation. Et d'où les Britanniques l'avaient-ils tiré? De feu, leur empire des Indes, évidemment. Le currywurst n'est pas pour rien dans l'entreprise du professeur Sanjay Subramaniam, indien. En l'an 2000, il séjournait à Berlin. À sa panoplie de langues européennes, l'anglais, le français, l'italien, le danois, le néerlandais, il voulait ajouter l'allemand. L'expérience de ce plat, où le curry à lui seul devait signifier l'Inde dans son ensemble, le renforça dans le projet d'étudier les manières dont s'étaient forgées en Europe les représentations de l'Asie du Sud. Les plus optimistes, les plus innocents peut-être, auraient tendance à dire qu'avec la multiplication des acteurs et la sédimentation des temps, la connaissance progresse. D'autres observent au contraire que les clichés se sont constitués très tôt et qu'ensuite ils ont la vie dure, vous savez, la caste, le bûcher pour les veuves, le curry pour les repas, etc. D'où l'idée d'étudier les strates de formation de ces représentations de 1500 à 1800, soit une longue période précoloniale, difficile à démêler parce que chacun, européen, indien, endosse déguisement après déguisement afin de ne pas laisser l'autre percer ses véritables intentions. À Los Angeles, où il enseigne, à l'Université de Californie, à Paris, où il est professeur invité au Collège de France, le projet de Sanjay Subramaniam a mûri, un peu à la manière de ces bons vins dont on n'a pas l'habitude d'accompagner le currywurst. Le voici publié chez son éditeur français officiel, Alma. Bonne dégustation à vous.
La marche de l'histoire sur France Inter.
Et bonjour à vous, Sanjay Subramaniam.
Bonjour.
Alors, ce livre est tissé de personnages qui sont, dirait-on, des interprètes, des médiateurs, des truchements, pas nécessairement ceux que, dans les histoires habituelles du rapport Inde-Europe, on met en avant les jésuites, les missionnaires. Vous aimez bien, finalement, les biographies des personnages dont on dit qu'ils sont mineurs, peut-être à tort.
Oui, bien sûr, on a aussi la possibilité de faire ça par l'autre bout, disons, en prenant que des gens très très connus, les interprètes de l'Inde, mais je préfère passer par cette autre voie pour deux raisons, parce que je pense que souvent ces personnages dits majeurs, on exagère leur importance, mais aussi parce que souvent on a déjà interprété ou surinterprété ces personnages, tandis qu'en passant par cette petite voie, ou une accumulation de petites voies d'ailleurs, je pense qu'on peut arriver à voir des choses beaucoup plus inattendues parfois.
Premier temps, les Portugais. Nous sommes dans les dernières années du 15e, dans les premières années du 16e.
Le 19 mai, nous atteignons Calicut.
Là, vous retrouviez les routes sur lesquelles partaient, ont voyagé tous ceux qui nous ont donné de l'Inde la description qui excite à nos esprits.
En effet, sire.
Des montagnes se lèvent sur l'horizon.
Une ville s'étend à leurs pieds.
Cette ville, c'est Calicut. Mouille tribord!
Ah, à Calicut, les maisons sont de bois, couvertes de feuilles de palmier. Mais c'est le cœur de l'exportation. Tu ne trouveras pas ville plus riche.
Afonso d'Albuquerque est le vrai créateur du fameux empire portugais en Orient. Il est arrivé ici, à la tête d'une petite escadre, et s'empara en 1510 du riche port qui faisait partie du sultanat de Bijapur. C'est par ici, par la rivière Mandovi, que ces bateaux, connus comme des caravelles portugaises, sont passés. Et c'est de ce promontoire qu'Albuquerque dirigea l'attaque de ses marins contre les musulmans.
empire en pire, direction magistrale, enfin.
Vous racontez que quand ils arrivent, les Portugais, ils savent pas très bien comment s'adresser à leurs interlocuteurs. Enfin, certains connaissent l'arabe, puisque la conquête de l'Algarve, le sud du Portugal, sur les musulmans, c'était il n'y a pas si longtemps.
Oui, mais même en passant par l'arabe, il y a quelques complications, parce qu'il faut savoir que l'habitude des Portugais, c'est de parler plus avec les Maghrébins, tandis que l'arabe qui est parlé en Inde a plus à voir avec l'arabe du Mashrek, de l'Égypte, etc. Mais c'est le seul moyen qu'ils ont au départ, parce que les autres langues de l'Inde, au moment de leur arrivée, sont pour eux un mystère. Donc, dans un premier temps, les premiers 3-4 ans, je pense qu'ils passent par l'arabe, puis petit à petit, ils vont se mettre à l'apprentissage et apprendre d'autres langues, et en passant par les langues, les cultures.
Alors, certains s'établissent durablement, ne sont pas des administrateurs de passage, on les appelle les casados. Ce sont eux qui font tenir, c'est la colonne vertébrale, l'estado de India, c'est pas vraiment un empire, hein, mais avec une capitale quand même qui est Goa. Et alors ces gens-là, ils disent, c'est nous qui connaissons les Indiens.
Oui, et en fait, il en a un peu partout, c'est-à-dire pas seulement en Inde, mais même par exemple en Asie du Sud-Est, à Malacca. J'ai même cité une lettre de ces gens où ils revendiquent en fait que comme ils disent, on a versé notre sang et donc ça nous appartient à cause de ça, que nous avons fait la conquête, etc. C'est pas très différent d'un certain point de vue de l'attitude des conquistadors espagnols à l'autre bout du monde. Mais ces gens-là, ils s'installent, comme vous avez dit, durablement. Quelques-uns sont plus ou moins connus parce qu'ils ont laissé des écrits, comme Duarte Barbosa ou Tomé Pires, des personnes dont je parle. Puis il y a d'autres, beaucoup moins connus, assez anonymes, qui nous laissent parfois une lettre, un fragment, etc.
Mais autre chose est de s'attaquer à la connaissance et au traitement des matériaux, des textes. Alors, premier personnage, on va en avoir 4 ou 5 au long de cette émission, João de Barros, qui est un chroniqueur un peu officiel, parce qu'il travaille sous l'égide des souverains du Portugal.
Oui, voilà. En fait, c'est quelqu'un qui a même été élevé en proximité avec celui qui va devenir le roi Jean III. Et puis, c'est un humaniste, il a plus ou moins fréquenté les milieux érasmiens au Portugal et en Espagne.
Et on est autour de 1530.
Hein. On est autour de 1530-40 par là. Et il est nommé finalement chroniqueur officiel. Et du coup, donc, il a la possibilité de mettre la main sur ses écrits. Parce que lui, il ne voyage pas beaucoup. Il a peut-être entrepris une fois un voyage en Afrique occidentale, mais il n'est jamais allé en océan Indien, par exemple. Mais il est plus ou moins l'intellectuel de cabinet, comme on dit. Et donc, c'est lui qui va accumuler, qui va ramasser et puis écrire à partir de ça.
Mais lui, il sait lire le persan, par exemple, parce que vous dites que parmi les premiers manuscrits persans, c'est important le persan pour la connaissance de l'Inde, qui parviennent à Lisbonne, beaucoup, personne ne sait les lire, alors les archivistes disent il n'y a qu'à les renvoyer en Inde.
Voilà, non, tant qu'on le sache, en fait, il ne sait pas lire le persan, mais il a des esclaves. Donc ça, c'est aussi la façon de faire, c'est-à-dire quand Baruch a besoin de quelqu'un pour lire le chinois, il fait venir des esclaves chinois. Et donc, du coup, on a aussi ce niveau de truchement des gens anonymes, parce que finalement, ces esclaves, pour nous, n'ont pas de visage ni de nom. Mais on sait que c'est par eux qu'il est arrivé. Et parfois aussi, ça crée des malentendus.
Ce qui intéresse Barros particulièrement, c'est la question religieuse, et dans la question religieuse, la lutte avec l'islam.
Voilà, il est quand même quelqu'un de cette génération où on a beaucoup réfléchi sur la menace que représentaient les musulmans. C'était quand même une véritable obsession pour les Portugais, comme aussi pour les Espagnols, mais peut-être même plus pour les Portugais. Et il fait partie de ce mouvement, oui.
Alors, un des points centraux de la rencontre, entre guillemets, c'est donc la question religieuse. On va évoquer là un texte plus tardif, C'est d'ailleurs un ensemble de textes constitué autour d'un album extraordinaire d'illustrations, compromis, cérémonies et coutumes religieuses des peuples du monde, avec un huguenot français, un imprimeur, tout ça à Amsterdam au XVIIIe siècle. Ce sont parmi les premiers à s'intéresser beaucoup aux gentils, donc pas seulement aux musulmans, à ceux dont on dit qu'ils pourraient constituer une sorte de religion une.
Oui,
on ne l'appelle pas encore ça l'hindouisme.
Non, on ne l'appelle pas l'hindouisme, probablement jusqu'au 18e, peut-être même la deuxième moitié du 18e. Mais oui, les gentils. C'est vrai qu'avant eux, parce que ce qu'ils font, ces messieurs, Bernard Picard et Jean-Frédéric Bernard, ils sont des compilateurs. Donc, ils utilisent des textes qui sont déjà là, qu'ils ont sous la main. Et d'ailleurs, on peut monter jusqu'au XVIe siècle si on veut. On peut, par exemple, voir ce que les missionnaires ont dit sur ces gentils. Et eux, ils vont donc faire le tri, accumuler certains textes, rejeter d'autres qu'ils trouvent moins intéressants. Mais en fait, ça, c'est quelque chose qui pendant tout le XVIIe siècle, est l'objet d'intérêt, pas seulement pour les catholiques ou les missionnaires catholiques, mais aussi pour les protestants. Donc, il y a un mélange assez intéressant chez eux de textes français, anglais, néerlandais, et etc.
Donc, comment regrouper toutes les religions de l'Inde en une, les religions renacles? Est-ce qu'il y a des comparaisons religieuses possibles, peut-être à terme? Qui sait, un déisme? La question politique, elle va être abordée aussi par d'autres médiateurs. Au XVIIe siècle, il y a davantage d'acteurs européens qu'au XVIe. Il y a les Danois, il y a les Hollandais et, si vous le voulez bien, Sanjay Subramaniam, il y a les Français. La Compagnie des Indes Orientales de Colbert commence en 1665 et un de ses agents s'appelle Bernier. C'est quelqu'un, on ne sait jamais pourquoi ils vont en Inde, les gens, ils vont en Inde pour faire fortune, non enfin pour oui, arranger leur situation.
Oui, en fait, Bernier, c'est un cas compliqué parce qu'il est allé en Inde avant la formation de la compagnie. Et donc, il était déjà en Inde quand la compagnie a été formée et la compagnie a voulu avoir son avis sur un certain nombre de choses. Donc, il est devenu, en quelque sorte, agent après coup. Mais il était en Inde, pourquoi? Parce que c'était un médecin. C'était quelqu'un c'était un disciple de Pierre Cassandy.
L'astronome.
Oui, et professeur au Collège Royal. Et alors, donc, Bernier va en Inde par curiosité, dit-il, mais aussi pour faire fortune. Et donc, il est là pendant à peu près une dizaine d'années, dans les années 50-60.
Et lui, du XVIIe siècle, et lui, il fait le truchement avec l'empire moghol au nord de l'Inde, avec ses grandes cités Delhi, Agra, et puis l'empereur.
Le roi paraissait assis sur son trône dans le fond de la grande salle de l'Amka, magnifiquement vêtu. Sa veste était d'un satin blanc à petites fleurs et relevée d'une fine broderie d'or et de soie. Son turban était de toile d'or et il y avait une aigrette dont le pied était couvert de diamants, d'une grandeur et d'un prix extraordinaires. Avec une grande topaze orientale, qu'on peut dire être sans pareil, qui brillait comme un petit soleil. Un collier de grosses perles lui pendait au col jusque sur l'estomac, de la façon que quelques gentils portent ici leur gros chapelet. Son trône était soutenu par 6 gros pieds, qu'on dit être d'or massif, et tout semé de rubis, d'émeraudes et de diamants. Je ne saurais vous dire au vrai la quantité ni le prix de cet amas de pierreries, parce qu'on ne peut pas approcher d'assez près pour les compter et pour juger de leur haut et netteté. Lorsque le roi marche en campagne, il a toujours deux camps, je veux dire deux amas de tentes séparées, afin que quand il décampe et sort de l'un, l'autre puisse avoir précédé d'un jour et se trouver tout près lorsqu'il arrive au lieu destiné pour camper. Et c'est pour cela qu'on les appelle les pêche-canées, comme qui dirait maison qui précède. Ces deux pêche-canées sont à peu près semblables et il faut plus de 60 éléphants, plus de 200 chameaux, plus de 100 mulets et plus de 100 portefaix pour en porter une. Les éléphants portent les choses les plus lourdes, comme les grandes tentes et leurs gros piliers, qui pour être trop longs et trop pesants se démontent en 3 pièces. Les chameaux portent les moindres tentes, les mulets le bagage et les cuisines, et l'on donne au portefeuille tous ces meubles légers, délicats, qui se pourraient rompre, comme la porcelaine dont se sert ordinairement le roi à sa table.
Lecture empruntée à France Culture 2008. Émerveillement devant le Mogol, et puis aussi question, comment on va faire pour le circonvenir, quoi.
Oui, en fait, ça, c'est quelque chose qui a déjà fasciné les Français au début du 17e. Vous savez que j'ai aussi cité un autre Français, drôle de personnage, qui s'appelle Hériard, Augustin Hériard, qui était un joaillier français qui était là. Et dans ces textes qui sont beaucoup moins littéraires, d'ailleurs, que les textes de Bernier, on trouve cette description déjà en place.
Et cet Hériard, dites-vous, il est passionné par les éléphants. On a entendu parler d'éléphants. Lui, il a une obsession de l'éléphant.
Il a même voulu renvoyer des éléphants comme cadeau à Louis XIII. Mais ces éléphants ont disparu.
La Compagnie française des Indes orientales va organiser l'installation française selon une échelle de comptoirs. Vous nous permettrez, vous ne traitez pas de colonialiste attardé, Sanjay Subramaniam, de passer de Guy Béard cette chanson bien connue.
Elle avait un petit mahé fragile. Elle avait un petit mahé secret, mais je dus à la mousson éteindre mes feux de Bengale, m'arracher, m'arracher aux délices de mahé. Pas question, dans ces conditions, de faire long feu dans les comptoirs de l'Inde. Elle avait le pont d'Ichéri facile, elle avait le pont d'Ichéri accueillant. Aussitôt, aussitôt, c'est un nouveau touriste qu'elle fit voir son comptoir, sa flore, sa géographie. Pas question, dans ces conditions, de revoir un jour les comptoirs de l'Inde.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Faisons le point, Lucie. Et à partir de notre comptoir de Chandernagore, nous pouvons étendre notre influence sur tout le nord-est de l'Inde, en y renforçant nos alliances avec les souverains locaux.
Vous oubliez que les Anglais, même chassés de Madras, restent très présents au Bengale, monsieur.
Ne m'agacez pas, Bussy, je suis dans ce pays depuis bientôt 30 ans, et j'ai noué d'excellents rapports avec la plupart des rajas, nizams, sultans et autres nababs de cette mosaïque de royaumes qui se partagent les Indes en se jalousant férocement. Mais c'est sur cette division que nous devons jouer si nous voulons conquérir l'ensemble de cet immense territoire.
Pour le plus grand profit de la Compagnie des Indes.
Et de la France, monsieur de Bussy. De la France.
Et de la France, Sanjay Subramaniam, vous publiez L'Inde sous les yeux des Européens, c'est aux éditions Alma. Là, on parle du regard des Français. On entendait Duplex, qui est le gouverneur des comptoirs de l'Inde, dont je rappelle à nos auditeurs qui sont restés en principe ou nominalement français jusqu'en 1954, et Duplex dialogue avec Bussy. Alors, votre livre fourmille de personnages. Et celui-ci, Charles de Bussy, qui se dispute un peu avec Duplex, est intéressant aussi.
Ah, très intéressant. C'est un personnage qui nous a laissé énormément de textes et de livres. Et en fait, au début du XXe siècle, Alfred Martineau, qui était administrateur colonial, puis devenu professeur, a publié un certain nombre de ses textes. Et on voit l'attitude de Bussy. C'était ça qui m'intéressait, plutôt que de parler de ses aventures politiques, de voir un peu ce qu'était sa pensée.
Oui, enfin, il a beaucoup d'aventures politiques, c'est un chef de guerre, et on se demande s'il travaille pour la Compagnie des Indes ou pour lui.
Oh, oui, c'était la question qui a été posée, parce que quand il est rentré, il a eu des ennuis.
Ouais. Et là, avec Duplex, ils ne sont pas toujours d'accord, mais ils sont en concordance sur un point. Les Indiens, il faut les tromper, quoi, parce qu'ils sont fourbes.
Voilà, donc en fait, leur idée, c'est que comme les Indiens sont fourbes, il faut être encore plus fourbe qu'eux. Donc c'est une espèce de version un peu, je dirais, un peu bas de gamme de machiavélisme, où on pense que... En fait, tromper l'autre, c'est l'essentiel du jeu politique.
Et alors, vous racontez ce rapport à cette époque, avant la domination coloniale bien établie, elle le sera par les Anglais, comme étant un rapport de dissimulation, un système de masques.
Voilà, et c'est pas moi qui ai inventé ça. Ça se trouve justement dans ces lettres, parce qu'on dit toujours, il faut pas montrer son vrai visage à l'autre, parce que ça c'est être pris de coup par quelqu'un qui est plus fourbe que vous. Hein? Donc fourberie et masque, ça va ensemble.
Bon, ça va pas aider peut-être à la connaissance dont on imaginait au début de l'émission qu'elle progressait avec l'accumulation des temps et des acteurs. Alors, il y a des acteurs dont on n'a pas parlé jusqu'ici et qui vont devenir dominants, la compagnie anglaise des Indes orientales. Et alors, ce que j'ai appris, moi, en vous lisant, c'est qu'en fait, d'anglais, il y avait beaucoup d'écossais.
Oui, en fait, ils sont en quelque sorte surreprésentés parce que, et surtout, disons, à partir de la fin du XVIIe et dans la première moitié du XVIIIe, il y avait beaucoup plus d'Écossais proportionnellement dans la Compagnie des Indes que, disons, au Royaume-Uni. Ils ne faisaient pas un cinquième, ils faisaient un peu plus que ça quand même.
Puis il y a une touche écossaise, hein, certains des Écossais que vous présentez ont un peu votre préférence. Hein. James Fraser, alors là on est dans les années 1730-1740.
Oui, c'est quelqu'un qui est venu en Inde assez jeune, il avait probablement 18 ans ou même un peu moins, il n'a pas fait des études d'université. Et là, il a grimpé dans les échelons de la compagnie. Et il est devenu assez important comme acteur commercial. Mais ce qui est vraiment intéressant avec Fraser, c'est qu'il a constitué une collection très importante de manuscrits et d'objets. Donc, il est parmi les premiers grands collectionneurs pour les objets indiens en Angleterre.
Alors, quand commence la collection ? Les Portugais sont relativement peu collectionneurs. Les livres qu'ils publient sont relativement peu illustrés. Quand commence la collection ? Dans quelles intentions ? Alors, il y a des collections en Angleterre, il y a des collections en Écosse, et il y en a ailleurs aussi.
Je pense que ça commence probablement dans la deuxième moitié du XVIIe, mais c'est pas très très riche encore à l'époque. Je pense qu'il faut attendre la fin du XVIIe, début du XVIIIe. Et c'est pour cela que Fraser est parmi les premiers qui a vraiment constitué une collection. Ses manuscrits se trouvent actuellement à l'Université d'Oxford. Mais c'est en fait, à mon avis, c'est peut-être la première grande collection de textes persans portant sur l'Inde.
Et il y a des cartes aussi, il commence à la fin du mois au musée Guimet, et puis paraît un livre de Singaravelu sur la manière dont on voyait le monde depuis l'Asie. Et donc c'est une exposition de cartographie. Il y a beaucoup de cartes dans les collections ?
Non. C'est-à-dire des cartes fabriquées en Inde ? Non. Mais bien sûr, il y a des cartographes européens qui vont utiliser, par exemple, qui vont faire une traduction du savoir textuel en savoir cartographique. Mais ça, c'est quand même une production européenne. Il y a des cartes produites, par exemple, en Inde par les Moghols, mais ils ne vont pas arriver en Europe, je dirais, jusqu'à la deuxième moitié du XVIIIe.
Alors, on a parlé de James Fraser, vous lui consacrez beaucoup, beaucoup de pages. Le dernier Écossais, quand même, pour les Français, son nom va dire quelque chose, Alexander Walker. Parce que cet homme, qui a travaillé en Inde à partir de la fin du XVIIIe siècle, s'est retrouvé successeur de Hudson Lowe comme gouverneur de Sainte-Hélène après la mort de Napoléon. Et c'est à Sainte-Hélène, où il était un peu sous-employé, qu'il a rassemblé beaucoup de documents, d'ailleurs, dont la plupart sont restés inédits. Vous les avez trouvés dans les archives.
Voilà, en fait, c'est quelqu'un qui a passé énormément de temps en Inde occidentale, dans le Gujarat, et puis en Inde du Sud. Et donc, il est rentré au début du 19e, et puis il a été nommé, comme je vous avais dit, dans les années 1810, 20.
Napoléon, vous savez, en France, oui, on connaît les dates.
Hein, oui, voilà. comme gouverneur de Sainte-Hélène. Et là, il est pas... comme Napoléon était mort, il n'avait pas grand-chose à faire. Et donc, il a commencé à rédiger ses mémoires basées sur les textes qu'il avait collectionnés en Inde. Mais en fait, qui sont restés...
Et alors lui, vous dites, il est un peu excentrique par rapport aux autres médiateurs. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'il n'a pas été publié. Il est peut-être plus bienveillant, enfin, plus d'empathie. Alors justement, grande question maintenant de fond. La connaissance progresse-t-elle avec l'accumulation du temps des acteurs ?
Je pense que c'est pas aussi simple que ça. C'est ce que je voulais démontrer dans ce livre. C'est-à-dire, tout d'abord, Je ne dis pas que, comme certains ont voulu dire, que c'était que des fantaisies, des mensonges. Je pense que même les Portugais ont compris quelque chose. Mais le problème, c'est que il n'y a pas une progression qui va vers la lumière, en quelque sorte. En fait, il y a des idées différentes, des projets différents, et il y a pas mal aussi de contradictions entre les couches de savoir.
D'accord.
Et il n'y a pas de façon.
Mais il y a aussi des clichés qui se constituent très tôt et qui se fossilisent.
Oui, mais vous savez que même les clichés ne sont pas forcément faux. Il y a parfois un grain de vérité derrière les clichés. Et donc, par exemple, une des choses que j'ai voulu démontrer, c'est, par exemple, l'idée de la caste, comme c'est développé par les Portugais, ce n'est pas inventé par eux, c'est tout simplement qu'ils ont pris certains éléments de la réalité indienne et ils ont insisté, peut-être trop insisté sur ces éléments. Donc, ce n'est pas le mensonge ou la contre-vérité, mais c'est une vision partielle de la vérité.
Pardonnez-moi cette question parce qu'elle va vous agacer, mais vous dites aussi le cliché de la veuve qu'on met sur son bûcher. Bon, ça peut être une part de vérité, mais ça obscurcit le champ.
Oui, voilà. Non, en fait, là encore, c'est une question de savoir qu'est-ce que les Européens ont fait avec le fait qu'il y avait bien sûr des veuves qu'on brûlait avec leur mari défunt en Inde, mais ils ont fait comme si ça arrivait tous les 15 minutes, ce qui n'était absolument pas le cas. Par exemple, vous pouvez pas lire un récit de voyage d'Européen où il dit pas qu'il a vu une scène de où on brûlait de Sati, où on brûlait les veuves, et en fait on dit même que j'ai parlé avec telle et telle veuve quand elle était en train de marcher vers le bûcher, etc. Alors là, on exagère quand même.
Dernier chapitre, c'est l'envoi de votre livre, L'Inde sous les yeux des Européens, chez Alma. Comment les Indiens prenaient-ils connaissance de l'Europe? Alors, il y a des Indiens assez nombreux qui partent au Portugal. Il y a des Indiens de plus en plus nombreux avec le temps, mais qui laissent très tardivement des témoignages ou des récits. Et longtemps, pour les Indiens, il y a des Européens, mais c'est quoi l'Europe?
Oui, on ne sait pas trop. Mais ça, c'est intéressant, parce que il y avait probablement des Indiens qui sont allés en Europe déjà au XVIe siècle, mais ils n'ont pas laissé de récits de voyage, de leurs expériences. Il faut attendre le 18e pour ça. C'est assez curieux et on n'en comprend pas exactement pourquoi il y avait cette espèce de trou dans la conscience géographique des Indiens où on ne voulait pas ou on n'a pas su donner une espèce de représentation concrète de l'Europe.
Je note deux phrases, je ne sais pas si elles sont de vous ou si vous les mettez entre guillemets. Première phrase, ils sont bien habillés, hein, les Européens, mais ils n'ont pas encore appris à se laver les fesses.
Oui, voilà, ça c'est un texte du XVIe siècle, mais en fait cette phrase est mise dans la bouche de l'empereur moghol Shah Jahan par un voyageur européen du XVIIe siècle.
Deuxième phrase, ils croient tout savoir, les Européens, alors dès qu'ils savent un peu, ils s'assoient pour écrire un livre, pour en faire la publicité, et ce livre n'a pas davantage de valeur qu'un jouet.
Et ça, c'est en fait un monsieur qui s'appelle Mirza Abu Talib, qui, lui, il est venu en Europe à la fin du 18e, début 19e, et il fait ce commentaire à propos d'un personnage très célèbre qui s'appelle Sir William Jones, qui est considéré normalement comme le père de l'orientalisme britannique, et il se moque un peu de lui.
Oui, mais enlever le masque, Sanjay Subramaniam, ces phrases-là, vous les reprenez un peu à votre compte?
Oui et non. Oui et non, parce que si c'était que mon opinion, ça aurait peut-être moins d'intérêt. Mais c'est parce que c'est mes acteurs qui parlent que ça a peut-être un peu plus d'intérêt.
L'Inde sous les yeux des Européens aux éditions Alma. Cette émission a été préparée par Franck Olivard, à la réalisation Étienne Bertin, à la technique Philippe Duclos. Et je signale, il faut toujours saluer les traducteurs et les traductrices, que c'est Johanna Blayac qui s'est employée à la traduction de ce grand œuvre.